بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le dimanche le 17 du mois Shawwal de l'année 1447 de l'Hégire, correspondant au 5 avril 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre lecture de ces 6 passages qui ont été choisis par l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, décédé en l'an 1206 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de la Ummah. Donc, nous avons vu ensemble précédemment les quatre passages précédents et les quatre événements précédents qui ont été choisis par l'auteur de la biographie de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, afin de tirer quelques leçons de ces passages. Et surtout, des leçons en lien avec la chose la plus importante en islam, qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le premier événement qui a été choisi, il a parlé de l'histoire du début de la révélation. Et dans le deuxième, il a expliqué la cause de la haine et de l'animosité qu'avaient les idolâtres contre le prophète, alayhi salatu wassalam. Pourquoi ils le détestaient? Pourquoi ils l'ont combattu? Et dans le troisième, il a cité l'histoire de la récitation du prophète, alayhi salatu wassalam, de Sourate Najm, un jour devant le Kaaba, où il s'est prosterné à la fin de la Sourate, et que le kuffar se sont prosternés derrière lui. Et dans le quatrième et dernier point que nous avons vu, c'est l'histoire de l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Talib. Abu Talib qui est mort mécréant. Et le Nabi, alayhi salatu wassalam, l'a appelé vers la fin de sa vie, pendant qu'il était mourant, il agonisait. Dans les derniers instants de sa vie, il s'est rendu auprès de lui. Et il l'a appelé à dire la parole « La ilaha illallah ». Et il y avait avec lui deux mauvais amis qui l'ont découragé et qui l'ont empêché de le dire. Et sa dernière parole, c'était son refus de dire « La ilaha illallah ». Et on a tiré les leçons de cette histoire dans les cours précédents. Aujourd'hui, nous allons entamer un nouvel événement de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam et un des événements majeurs de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Et également essayer de tirer quelques leçons seulement. Car comme vous savez, Sira an-Nabawiyya, la biographie du prophète, elle est riche en enseignements et en leçons à tirer pour le musulman dans toute sa vie et dans tous les domaines de la vie. Que ce soit dans ses relations avec ses enfants, avec son épouse, avec ses parents, avec ses frères et sœurs, avec les muslimines dans sa société, avec le kuffar, si il est dans un pays où il y a des kuffars. Et tous ces enseignements, on peut les trouver dans la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. Et parmi les grands intérêts de la lecture de la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est de connaître cet homme qui est Muhammad sallallahu alayhi wassalam. De connaître sa lignée généalogique, de connaître ses origines, de connaître la société dans laquelle il a grandi. Et de connaître le début de la révélation, qu'il a reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'âge de 40 ans. Il a commencé à recevoir la révélation à l'âge de 40 ans. Il a vécu par la suite 23 ans, car il est décédé à l'âge de 63 ans. C'est-à-dire, il a vécu 23 ans comme prophète et messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et durant ces 23 ans, ça c'est un phénomène qui ne s'est jamais produit sur terre. Durant 23 ans seulement, cet homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, a changé le monde. Il a changé le monde et l'humanité, à jamais, en 23 ans seulement. C'est pour ça que chacun de nous doit s'intéresser et se pencher sur l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est visé dans ce cours, ce n'est pas l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a déjà fait dans une série de cours, d'une cinquantaine de cours. D'une manière résumée, on a étudié la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, on a six passages qui ont été choisis de cette biographie afin de tirer des leçons qui sont en lien avec la chose la plus importante en islam. Et normalement, si on pose la question à un musulman, quelle est la chose la plus importante en islam ? Il doit savoir que c'est tawhid. Et malheureusement, on peut trouver des musulmans sur terre qui n'ont jamais entendu ce mot. Peut-être c'est la première fois de sa vie qu'il entend tawhid, alors que c'est l'adoration la plus importante en islam. At-tawhid ya ikhwa, c'est la signification de la parole la ilaha illallah. Que signifie la ilaha illallah ? Signifie la ma'bouda bihaqqin illallah. Wa anna kull ma yu'bad min dunillahi batil. Yani la budda an yakun al-muslim ala ilm bihadhihi al-kalima hatta tanfa'ahu fi qabrihi wa 'inda liqa'i rabbih. Amma in kan yukarriruha min ghayri ma'rifati li ma'naha fayukhsha 'alayhi fi qabrihi idha ja'ahu al-malakani munkar wa nakir يقولون ما يقولان من ربك يقول ها ها سمعت الناس يقولون قولا فقلته فيضربونه بمطرقة مرزبة يعني كالمطرقة الكبيرة جدا هذا الملك نابه كالجبل فلك أن تتخيل كيف هي هذه المطرقة هذه يضربانه بمطرقة يهوي بها 70 خريفا تحت الأرض نسأل الله السلام والعافية أما الموقن الذي عرف ربه وعرف التوحيد وعرف نبيه فيقول ربي الله نبي يا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما دينك يقول ديني الإسلام لأنه كان لا يستحي من الإسلام كان لا يستحي أن يظهر أنه مسلم بل هذا أعظم ما رزقك الله أن جعلك من المسلمين donc la faveur La plus grande faveur par laquelle Allah t'a comblé, c'est qu'il a fait de toi un musulman. Donc j'ai dit, si on demande à pas mal de musulmans aujourd'hui, quelle est la chose la plus importante en islam, si tu lui dis c'est tawhid, peut-être que certains d'entre eux, ça sera la première fois de sa vie qu'il entend ce terme. Et ça, ça indique le degré d'ignorance dans lequel se trouve notre communauté. Et ça explique pourquoi on est dans ces situations aujourd'hui. Et pourquoi les compagnons ont dominé la terre en une dizaine d'années à peu près. Radiallahu anhum wa ardam. Pourquoi tout simplement, si on veut résumer ça, parce qu'ils ont compris l'islam, la bonne compréhension. Ce n'est pas une compréhension qui est liée à une coutume, à une tradition, à un pays. Ils ont compris l'islam correctement et ils l'ont mis en pratique tout simplement. Et le jour où nous reviendrons à la bonne compréhension de l'islam, comme il a été compris par les compagnons, et qu'on le mette en pratique chacun selon sa capacité, car Allah ne charge jamais une âme au-dessus de sa capacité. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ce jour-là, ayez la certitude, mes frères, que cette communauté retrouvera son statut parmi les autres communautés et sera respectée comme elle se doit d'être respectée. Donc ce cinquième passage que nous allons voir aujourd'hui que je vais aborder avec vous aujourd'hui, nous allons parler d'un événement majeur dans la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Cet événement, c'est l'événement de l'émigration, al-hijra. Hijra du Nabi sallallahu alayhi wa sallam min Makkata ila al-Madina. Min Makkata allati kanat dar kufrin ila al-Madina allati hiya dar al-Islam. Donc nous allons parler de l'émigration du prophète alayhi sallam qui est un événement majeur dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a quitté la terre de mécréance qui était à ce jour-là la Mecque pour se rendre à la terre d'Islam qui était Médine. Et essayer de tirer seulement quelques leçons de cet événement capital dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur, rahimallah, dit, cinquième point, l'histoire de l'émigration. وَفِيهَا مِنَ الْفَوَائِدِ وَالْعِبَرِ مَا لَا يَعْرِفُهُ أَكْثَرُ مَنْ قَرَأَهَا. Il dit que dans cette émigration, il y a tellement de leçons que même ceux qui ont déjà lu cette histoire, ils n'ont pas connaissance de toutes ces leçons. وَلَكِنَّ مُرَادَنَا الْآنَ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ مَسَائِلِهَا. Par contre, ce qui est visé ici, c'est une seule leçon que l'auteur va tirer de cette histoire et de cet événement. Wahia, c'est quoi cette leçon? Écoutez bien, barakallahu fikum. C'est quoi cette faïda? Et cette leçon, cette grande morale que nous devons tirer de l'émigration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, wahia, anna min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, man lam yuhajir. Parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les muslimines, qui vivaient à Mecca, il y en a certains qui n'ont pas émigré. Quand le prophète a émigré vers Médine, il y a des compagnons qui ont émigré avant lui. Il y a des compagnons qui ont émigré après lui. Et d'autres sont restés à Mecca. Min ghayri shakkin fi ddin. Mais par contre, est-ce qu'ils sont restés à Mecca par amour des mécréants? Ou parce qu'ils avaient des doutes dans leur foi? Où ils n'avaient pas assez de certitude sur la véracité de la religion de l'islam et que le prophète est un vrai prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Non, la réponse non. C'était des vrais croyants. Ils avaient la certitude. Ils n'avaient aucun doute au sujet de l'islam. Mais qu'est-ce qui les a empêchés alors d'émigrer, alors qu'ils étaient capables de le faire? Il dit « Walakin mahabbatan lil ahli » وَالْمَالِ وَالْوَطَنِ. Donc ce qui les a empêchés, c'est uniquement l'amour pour leur patrie, pour leur argent, pour leurs biens et pour leur famille. Donc ils avaient de la famille à Mecca, ils avaient leur commerce et leurs affaires à Mecca, et c'était des Mecquois à la base. C'est leur patrie, la Mecque. Donc, ils ont eu du mal par rapport à leur attachement à ces choses-là. Et quand, après l'émigration, quand le prophète est sorti pour la bataille, la grande bataille de Badr, la grande bataille de Badr qui s'est déroulée entre le prophète et Kuffar Quraysh, dans une ville qui existe encore aujourd'hui en Arabie Saoudite, qui s'appelle la ville de Badr. C'est pour ça que cette bataille s'est appelée la bataille de Badr, car elle s'est déroulée à cet endroit-là. Et comme vous savez, dans l'histoire de la bataille de Badr, le prophète est sorti avec 300 et quelques de ses compagnons. Ils n'étaient même pas armés. Ils n'étaient pas préparés pour une guerre. Ils sont sortis juste pour intercepter une caravane commerciale appartenant à Abu Sufyan et d'autres mécréants. Et vous savez que Kuffar Quraysh ont dépouillé les musulmans avant qu'ils ne fassent l'émigration. Et donc, c'était un moyen de récupérer un peu de leurs droits et de leurs biens. Et ils sont sortis avec le prophète. Beaucoup d'entre eux n'étaient même pas armés. Et la plupart d'entre eux marchaient à pied. Ils n'avaient pas de monture. Et quand Kuffar Quraysh ont entendu la sortie des muslimines pour intercepter cette caravane, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont préparés, ils sont sortis avec une armée extrêmement bien équipée, extrêmement bien armée, de plus de 1000 personnes. Plus de 1000 personnes contre, bien armées contre 313 ou la 314, dont la plupart n'avaient même pas d'armes. Et quand Nabi Al-Salam a vu cela, il a demandé, il a invoqué Allah, il l'a imploré de donner la victoire et le triomphe aux croyants. Et que si jamais ces croyants sont vaincus aujourd'hui, jamais Allah ne sera adoré sur terre. Et il n'a cessé de l'implorer et de l'invoquer jusqu'à ce que Abu Bakr radiallahu anhu ait pitié de lui. Il lui a dit au messager d'Allah, est-ce que tu doutes de la véracité de la promesse d'Allah? Il va accomplir sa promesse pour toi. Et ensuite s'est déroulée cette bataille entre les 300 et quelques croyants avec très peu d'armes et très peu de montures contre une armée de plus de 1000 personnes extrêmement bien équipées et la plupart d'entre eux avaient leurs montures. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les renforts, des anges, à leur tête Jibril et Mikaïl et Israfil. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé en renfort l'élite des anges, les meilleurs des anges. De la même manière que ces 300 et quelques hommes qui ont combattu dans la bataille de Badr, c'était les meilleurs des croyants de cette communauté. Également, à leur rang, ont combattu les meilleurs des anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a accordé la victoire et le triomphe aux croyants. Et c'était une bataille décisive qui a tout changé. C'est pour ça qu'on l'appelle Yawmul Furqan, Allah comme il la nomme dans le Coran. La bataille du discernement, car c'était un discernement entre le vrai et le faux. Et les musulmans sont devenus un pays, une force. Pour la première fois, c'est devenu ainsi. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas cette histoire, comme il dit l'auteur. Ce qui nous intéresse, c'est quand les kuffars sont sortis pour rencontrer les croyants, ils ont forcé certains musulmans qui sont restés à Mecca et qui n'ont pas émigré vers Médine à les accompagner dans cette bataille. Donc ils sont sortis malgré eux, sous la contrainte. Lakin, rappelez-vous qu'ils sont restés à Mecca sans excuse valable, juste par amour des biens et de la famille et de la patrie. Mais par contre, leur sortie dans la bataille, elle était sous la contrainte. Et après le déclenchement de la guerre, des croyants, des archers parmi les musulmans, ont touché certains de ces musulmans qui étaient du rang du côté des kuffars. Ils les ont tués, sans faire exprès. Et quand ils ont appris cela, qu'ils ont tué un tel et un tel parmi les musulmans, ils étaient extrêmement peinés. Et enfin, ils étaient extrêmement peinés. Oula, peignés, oula. Et ils ont dit, nous avons tué nos frères. Ils étaient extrêmement peinés. La peine, le peigné, oula. Al-Mohim, c'est vous qui maîtrisez la langue française. En tout cas, ils ont dit, nous avons tué nos frères, car ce sont leurs frères. C'est pas des... Et ils ne l'auraient pas dit s'ils avaient des doutes dans leur foi. Ou si ils ont combattu aux côtés des mécréants en voulant exterminer les musulmans. Ils savaient qu'ils avaient des excuses. C'est pour ça qu'ils ont dit, nous avons tué nos frères. Et Allah a révélé à ce sujet que ce verset que vous lisez jusqu'à aujourd'hui dans Sourate Nisa, où Allah dit, Allah l'a révélé à ce sujet. Il a dit, إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الآيات. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme vous savez, ya ikhwa, le Coran ne se traduit pas. Le Coran, c'est la parole d'Allah en langue arabe. Allah a parlé avec le Coran en langue arabe, réellement, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Et la traduction, c'est juste pour rapprocher les sens. Amma, le seul moyen de bien comprendre la parole d'Allah, c'est d'apprendre la langue arabe. Il n'y a pas autre moyen. Mais les traductions, c'est pour ça qu'ils ont compris ça par la suite. Au début, ils mettaient traduction de le Coran. Et aujourd'hui, si vous voyez la plupart des masahif, ils mettent plus traduction du Coran. Ils ont compris cette erreur et ils mettent traduction approximative des sens du Coran. C'est-à-dire que celui qui va traduire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire un tafsir, une explication de ce verset. Il va essayer de traduire selon un des sens. Comment traduire une parole aussi éloquente, la parole la plus éloquente, afsahul kalam, kalamullah azza wa jalla, c'est impossible de le traduire. Lakin on traduit un de ses sens. C'est pour ça dans cette traduction, Allah nous dit, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, en parlant des croyants qui n'ont aucun doute dans leur foi, qui sont restés à Mecca, terre de mécréance, et qui n'ont pas émigré avec le prophète alayhi salam à Médine, terre d'islam. Allah il dit à leur égard, il dit, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant, où étiez-vous à propos de votre religion? Et remarquez, comme il dit l'auteur, ils ne leur ont pas dit, les anges ne leur ont pas dit, pourquoi vous aviez des doutes au sujet de l'islam? Pourquoi vous aimiez les kuffars? Car ils savent, ils n'ont pas ça. Ils leur ont dit, où étiez-vous à propos de votre religion? Ils diront, nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour exiler, pour émigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination! À l'exception des impuissants, hommes et femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. À cela, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est clément et pardonneur. Allah est clément et pardonneur. Donc parmi les leçons, avec quoi je vais terminer aujourd'hui, on va citer quelques leçons de cette histoire alors que l'histoire n'est pas terminée. On va la terminer dans notre prochaine rencontre, Inch'Allah. Lakin, par rapport à ce qui a été cité, parmi les leçons, l'importance de la religion dans la vie du musulman. Ya ikhwa, faut que notre religion, faut que l'islam soit réellement, c'est pas avec les paroles seulement et les prétentions, il faut qu'il soit ta raison de vivre, la chose la plus importante. Tout le reste vient après ta religion. Car c'est cette religion qui est la clé du bonheur éternel. C'est pas les euros que tu vas gagner, ou là les enfants que tu vas faire, ou là les maisons que tu vas construire, qui vont faire ton bonheur. Ton vrai bonheur, c'est avec la religion de vérité. Tout ce que tu vas faire dans cette dunya, tu le laisseras derrière toi. Tu partiras avec un petit morceau de tissu dans lequel tu seras enveloppé. C'est tout ce que tu vas emmener avec toi. Et tout ce que tu auras gagné, tu le laisseras en héritage à tes héritiers. Si tu l'as gagné d'une manière halal, alhamdoulillah, c'est bénéfique pour toi et c'est bénéfique pour eux. Et si tu l'as gagné d'une manière haram, illicite, alors malheur à toi. Tu vas rendre des comptes. Mais c'est halal pour eux. Pour les héritiers, c'est halal dans tous les cas. Donc là, l'importance de la religion dans la vie du musulman. Regardez comment le Nabi alayhi salatu wassalam, il a délaissé toute chose. Il a délaissé son pays natal, qu'il aimait énormément. Nabi, vous savez, quand il a quitté Mecca, il est arrivé à un endroit où il voyait encore Mecca, il s'est tourné vers la ville de Mecca. Il a dit par Allah, si on ne m'avait pas sorti de Mecca, jamais je serais sorti. Car il aimait sa ville natale. Il aimait son pays natal. Et ça, c'est naturel. C'est naturel qu'un individu aime le pays dans lequel il est né. C'est pas un sujet de blâme ni d'éloge. Lakin, si on trouve quelqu'un qui n'aime pas son pays natal, son pays d'origine, c'est qu'il a un problème dans sa nature humaine saine. Ceux qui dénigrent leur pays d'origine, ils ont des problèmes. Et ils t'aiment le pays dans lequel t'es né. T'aimes son bien aussi. S'il y a des négligences, il y a des injustices, t'aimes qu'il soit réformé. Lakin, c'est pas pour autant que tu vas commencer à le dénigrer et à dire du mal de ton pays. Donc c'est pour ça que le Nabi alayhi salam, il a délaissé son pays natal. Il a délaissé ses proches qu'il a laissés à Mecca, qu'il n'a pas pu emmener avec lui. Et surtout ceux qui n'étaient pas sur la même religion que lui. Il a délaissé ses amis. Il a délaissé tout ce qu'il possédait pour sauver sa religion. Alayhi salatu wassalam. Car la chose la plus chère que tu possèdes, ya akhil karim, c'est ta religion. Si tu perds ta religion, t'auras tout perdu. Lis si tu veux la parole d'Allah dans le Coran. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ مُبِينَ. La vraie perte, ya akhi, c'est pas que t'échoues dans une entreprise ou là tu t'échoues dans une affaire commerciale ou là tu perds une somme d'argent ou là que tu sois touché par une maladie qui te fait perdre des membres. La vraie perte, c'est que tu perds ta religion. Donc, hadi parmi al-fawaid qu'on puisse tirer de cette histoire, qui est l'importance de la religion de l'islam dans la vie du musulman. Il faut que ce soit concret et réel, et pas seulement avec les paroles. L'importance que tu dois donner au tawhid. At-tawhid, la clé du paradis. Wallahi, il n'entrera au paradis qu'un homme qui est tawhid dans son cœur. Wallahi, il n'entrera au paradis qu'un homme qui est tawhid dans son cœur. C'est pas moi qui le dis. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit dans le Coran, dans énormément de versets. Mais malheureusement aujourd'hui, nous lisons le Coran sans le comprendre. Allah il dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah il dit, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dans beaucoup de versets. Le Coran du début jusqu'à la fin, il parle de التوحيد. Et il met en garde contre le shirk, le péché le plus grave. Et en deuxième position vient la salat. Regarde, ya akhi, si tu veux voir, comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, le grand compagnon, si tu veux voir l'importance de l'islam dans ton cœur, ne regarde pas les paroles que tu tiens et les beaux discours que tu tiens. Regarde l'importance que tu donnes à la salat en groupe. Ça indique l'importance de l'islam dans ton cœur. Comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il a dit « Man arada an yanzura ila qadri l'islam fi qalbihi, fal yanzur ila qadri haoula is salawat indah » Les cinq salawats obligatoires et leur accomplissement dans la mosquée. Qu'Allah nous le facilite à tous. Et après salat, et après, il y a les zakat, et le reste des piliers de l'islam. Et le comportement, également, il est d'une grande importance en islam. Car les hommes les plus proches dans le paradis du prophète, c'est ceux qui ont les meilleurs comportements. Les hommes les plus proches du prophète, dans le paradis, c'est ceux qui ont les meilleurs comportements. Mais le comportement, c'est d'abord le comportement avec Allah, subhanahu wa ta'ala, at-tawhid. Le comportement avec le messager, de suivre sa sunna et sa tradition, et le comportement avec les créatures, d'être bon et d'être profitable pour ton entourage, pour tes frères, pour ta société. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.